On va continuer avec le... On était dans le chapitre 3 de Romains. C'est juste pour vous rappeler que on a commencé il y a quelques semaines cette étude et qu'on a vu que le thème central, c'était l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui vient pour nous sauver. Et il a commencé en disant « Je n'ai pas honte », c'était au premier chapitre, « Je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Il va nous parler, avant de nous vouloir nous convaincre ou nous expliquer en quoi consiste l'Évangile de façon beaucoup plus détaillée, il veut d'abord nous montrer que nous sommes tous malades. Malade par la maladie du péché. Et il veut vraiment que tout le monde ait cette conviction profonde que devant Dieu, je suis un pécheur. Nous avons tendance à catégoriser les péchés, à nous comparer aux autres. Certes, je suis pécheur, mais je ne suis pas aussi terrible qu'Hitler ou que telle autre personne à laquelle je peux penser. Mais pour Dieu, nous sommes tous loin de la perfection. On y reviendra dans le thème. Et donc, il a commencé par montrer que les pécheurs invétérés, ceux qu'on regarde en les montrant du doigt, en disant « Merci Seigneur, je ne suis pas un tel pécheur », comme un certain publicain, plutôt comme un certain pharisien le faisait dans l'église, en voyant un pauvre homme qui, lui, n'osait même pas s'approcher de Dieu et du temple. Il montre que même ces gens-là sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un remède. Et puis, il passe aussi aux gens qui pensent être des gens bien, des gens qui vivent selon une certaine morale. Ils ne croient pas nécessairement en Dieu, mais ils ont une vie, on dirait aujourd'hui, respectable. Et là aussi, il leur montre que ces gens-là, malgré les apparences d'honnêteté, de bienséance, en fait, eux aussi sont des pécheurs qui ont la maladie du péché. Puis, il progresse pour être sûr d'avoir eu tout le monde. Il a pris les païens, les gens bien, maintenant il va prendre les gens religieux. Et là aussi, il a un auditoire juif notamment, il a des païens et des juifs, mais les juifs, eux, vont s'offusquer, vont se dire « mais comment est-ce possible? Nous avons reçu la révélation de Dieu et cet homme qui était un pharisien nous dit maintenant que nous sommes aussi des pécheurs qui avons besoin d'être guéris. » Pour eux, c'était très difficile à recevoir. Et donc là, une fois qu'il a dit tout ça, il nous a, pour ainsi dire, convaincus tous, si on a suivi son raisonnement, et c'est un grand logicien, Paul. C'est un intellect brillant, un intellectuel très brillant, un des plus grands esprits qui ait jamais vécu sur la Terre, comparable à quelqu'un comme Einstein, où il avait une intuition des choses et une révélation qui lui est venue, qui en a fait l'un des plus grands évangélistes, un des plus grands apôtres. Il a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, excusez-le du peu, Et il va nous accabler pour qu'on dise oui, c'est vrai, on a tous besoin de Dieu, d'un pardon de Dieu, d'un remède à notre maladie du péché. Et c'est seulement quand on est convaincu qu'on est malade qu'on va accepter de prendre la potion magique, la potion du docteur, le remède. Tant qu'on n'est pas convaincu que ça s'adresse à nous, on laisse filer. Et donc, il nous a descendus en quelque sorte, tous, aussi bien les pêcheurs invétérés, ceux qui sont tellement pêcheurs, comme on dirait, qu'ils s'en foutent de pêcher. Ça ne les concerne pas, la relation avec Dieu, c'est le dernier de leurs soucis. Les gens bien qui se disent « mais moi j'ai quand même une moralité », et puis les gens religieux qui pensent que Dieu les prend comme des gens particuliers, qu'il a un traitement de faveur envers eux, parce que eux, ils suivent des règles et des rituels religieux. Et donc on va prier avant de continuer pour avoir que nous ayons vraiment l'esprit prêt à recevoir les choses qui vont nous être dites ce matin dans ce texte. C'est peut-être un des passages de la Bible les plus importants. Si vous êtes là ce matin, c'est pas par hasard. Dieu veut vous convaincre de certaines choses. Seigneur, merci pour l'apôtre Paul. Merci pour la façon dont tu l'as appelé à être un homme qui nous explique notre relation avec toi. Merci comment tu l'as éduqué, comment tu l'as renversé de son cheval, comment tu lui as parlé pour pouvoir lui révéler et lui donner la capacité par ton Esprit Saint, Seigneur, de nous expliquer ces choses, pour qu'il n'y ait aucun doute dans notre esprit, de savoir comment avoir une relation juste avec toi. Seigneur, parle-nous, et que cette connaissance que tu veux nous révéler, Seigneur, elle ne reste pas lettre morte, mais qu'elle se traduise par un changement de vie, un changement d'identité, un changement de relation avec toi. Sois béni. Merci Seigneur pour cette révélation. Prions ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Juste pour reprendre le chapitre 3, on va lire à partir du chapitre du verset 9, si vous voulez lire avec moi. Je lis dans la version second 21. Que dire donc ? Sommes-nous supérieurs aux autres ? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et peut-être l'explication, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Verset 19. Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Nous avons déjà commenté ces versets, mais je voulais nous replacer dans la logique, dans la dynamique de ce que Paul nous écrit, nous dit. Et maintenant, on va lire les versets 21 à 31, qui commencent par un glorieux « mais maintenant ». Il va passer maintenant à la bonne nouvelle. Mais maintenant, verset 21, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, c'est un verset à mémoriser. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Voilà, on peut lire ce passage en se disant que c'est des termes un peu religieux dont il est question. Mais il nous parle ici de la justice de Dieu et comment être déclaré juste, acceptable, accepté par Dieu. C'est ce que quelqu'un appelle l'évangile de la justification par la foi. La justification, c'est le fait d'être déclaré juste par Dieu. C'est quelque chose qui est difficile à concevoir lorsqu'on sait combien nous sommes pécheurs. C'est d'abord, il nous dit que c'est en dehors de la loi. La loi, c'était bien sûr les 10 commandements. Mais c'était aussi toutes les autres règles qui étaient annoncées dans la parole de Dieu, dans la Torah. Mais c'est aussi tout système de règles religieuses que l'on essaye de suivre pour obtenir l'acceptation par Dieu. C'est en dehors de la loi. Et elle a été donc manifestée indépendamment de la loi. On a encore aujourd'hui, si on interroge la personne les personnes dans la rue, et si on leur demande s'ils pensent être des bonnes personnes, ils vont essayer de se dire qu'en fait ils obéissent à un certain nombre de règles, de lois, vous diront souvent, je respecte les 10 commandements, pensant en fait qu'ils n'ont pas tué une personne ou qu'ils n'ont pas commis l'adultère avec une autre personne que leur épouse dans le cadre d'un mariage. Mais ces personnes, elles pensent qu'elles ont un certain mérite parce qu'elles respectent certaines règles. Le problème, c'est que la question, c'est de savoir combien je respecte ces règles. Est-ce que je les respecte tout le temps, parfaitement, ou est-ce que j'essaye d'y penser de temps en temps, ou est-ce qu'il y en a que je ne vais pas violer parce que je n'ai pas de penchant à ça? Je m'évanouis quand je vois du sang, donc je ne vais pas aller couper la tête à quelqu'un avec un couteau. Non, on pense tous que on est mieux que les autres. Mais encore une fois, la loi, les 10 commandements, ce n'est pas donné pour nous montrer comment accéder à Dieu. Ce n'est pas une échelle qu'on essaye de grimper pour arriver plus haut, toujours plus haut vers Dieu. Non, le verset précédent, le verset 20, nous disait « C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » On raconte qu'il y avait un pasteur qui devait s'adresser à des ingénieurs de la NASA dans le cadre d'une invitation spirituelle. Il y avait des ingénieurs chrétiens qui l'avaient invité, et il y en avait bien sûr d'autres qui venaient assister à cette conférence, et ils se disaient « Mais sur quoi est-ce que je vais bien pouvoir prêcher ?» Et la personne qui l'avait invité lui dit « Je crois que c'est très simple. En fait, ces ingénieurs sont habitués à faire un travail de la plus grande précision qui soit. Ils ont des degrés de tolérance pour l'épaisseur de telle partie de la fusée. Il y a même des choses qui mesurent en microns. Ça doit être précis à 1 ou 2 microns près. Ils savent ce que c'est que la tolérance minimale. Et ça a fait la lumière dans la tête de ce pasteur. Il a dit, oui, je vais leur parler de la tolérance qu'il faut pour satisfaire Jésus. Et cette tolérance, elle n'est pas de 1 ou 2 microns ou 2 millimètres d'épaisseur de telle ou telle partie de la fusée. La tolérance avec Dieu par rapport au péché, pour être accepté, pour passer le test, de dire tu peux rentrer, tu peux voler avec moi pour l'éternité. La tolérance, c'est la tolérance zéro absolue. On entend souvent les ministres de l'Intérieur ou les politiciens dire maintenant c'est fini, tolérance zéro. Puis on s'aperçoit qu'en fait, il y a des gens qui sont condamnés mais qui ne sont jamais allés en prison. Il y a des gens qui sont en prison condamnés pour 20 ans mais qui sortent avec bonne conduite au bout de 3 ans. On n'est pas là pour juger de ça, mais la tolérance zéro, à force d'en parler, on ne la comprend plus. Pour Dieu, le péché, il a une tolérance zéro au péché. C'est difficile à concevoir et pourtant c'est la vérité. Parce que nous, encore une fois, on se dit, mais je suis quand même quelqu'un qui n'est pas aussi terrible qu'Hitler, même si j'ai fait des fois des choses égoïstes, ou j'ai triché, j'ai menti. Pour Dieu, la moindre imperfection, le seul petit péché que vous commettriez pendant toute votre vie parfaite, ça suffirait pour vous mériter la punition de Dieu. On a, encore une fois, je sais que c'est difficile à concevoir, mais c'est ce que la Bible déclare, et c'est ce qu'inconsciemment on sait quelque part. Le plus grand problème de l'humanité, c'est notre sentiment de culpabilité. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de cabinets, de médecins, de psychologues, de psychiatres ? Nous avons tous au fond de nous le sentiment qu'on fait, on n'est pas OK. Contrairement à ce que certains psychologistes dans les années 70 aux États-Unis, il y avait un livre célèbre qui s'appelait You are okay, I am okay. Arrêtons d'avoir toute cette culpabilité. Cette culpabilité, c'est pas la Bible qui la donne, c'est notre conscience. Parce que Dieu nous a parlé aussi par notre propre conscience. Et on sait tous qu'on fait des choses qui ne devraient pas être faites. On fait des choses, on ne fait pas de choses qu'on devrait faire, etc. C'est le sentiment du péché qui est un terme un peu galvaudé aujourd'hui, qui est plutôt considéré comme vieux et religieux, démodé, dépassé. Et quand on fait les sondages auprès des jeunes, notamment, souvent ils disent « c'est être en contradiction avec sa propre moralité ». Alors c'est pas faux, mais c'est pas une moralité qu'on se décide pour soi en se disant « ça va m'arranger ». Non, le péché, c'est par rapport à la loi morale parfaite de Dieu. On peut avoir un mur parfaitement blanc, c'est pas le cas ici, mais si vous faites un gosse vient avec un stylo et fait une petite tache sur le mur blanc, le mur n'est plus blanc, complètement, parfaitement, si on parle de tolérance zéro. Dieu, il nous propose de nous justifier. C'est le fait d'être déclaré juste, mais pas parce que Dieu déciderait, bon ben, si je reste trop strict, personne ne va pouvoir venir avec moi pour le restant de l'éternité. Donc on va baisser on va augmenter la tolérance et on va laisser entrer des gens qui sont... Non. On va continuer et on va, au fur et à mesure, on va parler de ces choses-là, suivant ce qu'en dit la Bible. Il est dit que les prophètes, la loi et les prophètes ont parlé de cette justice de Dieu. Jérémie 23, 6, appelé par exemple Dieu notre justice. Il y a des passages nombreux qui font appel à la justice de Dieu. Le mot en hébreu, c'est le mot tzedeka. Et ça, la tzedeka, c'est la conformité à une norme. Encore une fois, c'est le principe, est-ce qu'on a une norme stricte ou pas? La norme de Dieu, elle est parfaite, elle est complètement stricte. Tolérance zéro. Cette justice, cette justification, verset 22. Donc la justice de Dieu, c'est le fait que Dieu est parfaitement droit. Ségolène Royal parlerait de droititude. Parce que justice, on pense au système de justice. Et quand on dit il va passer en justice, ça veut dire qu'il va être pris dans le système judiciaire. Là, c'est la justice de Dieu, c'est sa perfection absolue en termes de moralité, de pureté, de bonté. Cette justice, les écrits de l'Ancien Testament en parlent. C'est pas une chose nouvelle. Et il nous explique, verset 22, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est cette justice de Dieu, on peut se l'approprier par la foi. Quand nous mettons notre foi en Christ, nous venons avec toute notre noirceur, tous nos péchés, c'est tout ce que nous avons à lui offrir. Parce que même nos bonnes œuvres, c'est dur ça aussi à admettre, Ésaïe 64 disait que nos œuvres, nos bonnes œuvres sont comme un torchon souillé. C'est dur à admettre, mais si on y pense, souvent nos bonnes actions, on les fait pour se donner bonne conscience. Je vais donner un peu d'argent aux mendiants avant d'aller participer à un bon repas. Ou je vais prier pour que les autres me disent « Oh, c'est un homme religieux, etc. » C'est souvent pas très loin. Alors, c'est vrai que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous avons des aspirations, mais la Bible est sans équivoque. Même nos meilleures actions ne sont pas parfaites. Il y a quelque chose qui vient les troubler, quelque chose qui vient polluer la raison, la motivation pour laquelle on les fait. Et je vous invite à y réfléchir. C'est pas pour vous condamner, mais c'est pour qu'on réalise qu'en fait, la Bible dit vrai et que nous nous mentons. Lorsque nous faisons appel à Jésus, par la foi en Jésus-Christ, il devient notre vertu parfaite, il devient notre justice. Je disais, on lui amène notre noirceur, nos péchés, et puis en échange, il nous donne sa droititude parfaite. Jésus-Christ est le seul homme qui ait vécu sur terre, qui ait parfaitement respecté la loi. Tous les autres, nous sommes absolument incapables de le faire. À tel point qu'en fait, la loi, elle nous a été donnée pour nous montrer que nous sommes malades. C'est comme un niveau qui montre que nous sommes de travers. J'allais dire une vieille expression, de guingois. On n'est pas droit. On est plus ou moins droit, mais on est tous un peu comme la tour de Pise. On est tous imparfaits. Et l'échange qui se passe, que Dieu nous propose, c'est de lui amener notre noirceur et de recevoir la parfaite blancheur, le mur blanc sans la moindre tache, de Jésus. C'est un échange incroyable. Nos péchés contre sa justice, contre sa droititude, pour vous faire comprendre ce que veut dire justice. Comment est-ce qu'on peut refuser une offre pareille? Je crois que c'est peut-être la première raison, c'est qu'on n'a pas compris qu'il y avait une telle offre disponible sur le marché. Et c'est le but de l'évangélisation, c'est pas de faire grandir l'Église, c'est pas de compter davantage de chrétiens, c'est parce qu'on a trouvé quelque chose qui est absolument fantastique. Nous avons tous dans le cœur le désir, parce que nous avons été créés pour ça, de plaire à Dieu, d'être en paix avec lui. Il y a un merveilleux verset de 2 Corinthiens 5:21 qui nous explique cet échange incroyable qui dit « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous. » Ce n'est pas seulement qu'il a pris quelques péchés, il est devenu l'horreur absolue. Il a pris toutes les horreurs de l'histoire, tous les crimes, que ce soit Hitler, que ce soit des personnages de l'Antiquité, des personnages récents, toute l'horreur qu'on peut imaginer et qu'on ne veut même pas imaginer, qu'on ne peut pas imaginer, c'est devenu Jésus. Jésus, il l'a fait devenir péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Le grand échange. Il n'y en a pas plus de plus fantastique pour aller partout dans l'univers, il n'y a pas une meilleure affaire, si je peux me permettre cette trivialité. Il faut être fou pour ne pas vouloir participer à cet échange. Et pourtant, alors je disais, la raison principale, c'est le manque d'informations de tous nos contemporains, de tous les hommes de l'histoire, mais aussi c'est un désir d'orgueil, de penser qu'on peut se sauver par soi-même. Il faut de l'humilité pour reconnaître qu'on est vraiment en banqueroute morale et spirituelle. Et nous avons en nous cette nature de pécheur qui se caractérise par de l'orgueil. Et on veut tous penser qu'on n'est pas aussi mauvais que l'autre et qu'avec du temps j'arriverai à chasser ces mauvaises habitudes, que je vais m'améliorer, je vais prendre des bonnes résolutions. Pas encore parce qu'on est en octobre encore, mais début janvier, je vais devenir une bonne personne, quote, quote. Et encore une fois, le verset 23 nous dit, nous avons tous besoin de cette justice divine, de cette droititude, parce que tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes péché, ça veut dire le mot qui est traduit dans le Nouveau Testament par péché, il y a plusieurs expressions. Ça peut être transgression, ça peut être franchir la ligne, mais c'est le mot le plus courant dans le Nouveau Testament, veut dire rater le centre de la cible pour un tireur à l'arc. Il y a toujours, on n'atteint pas la perfection ici-bas. On est tous incapables de perfection. On a tous péché. Et ça, c'est quel que soit notre arrière-plan, pêcheur, gens moral, gens personnes qui ont une certaine moralité ou personnes religieuses, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Alors, la question, c'est en quoi est-ce qu'on est privé de la gloire de Dieu ? On est privé de la gloire de Dieu parce que on ne reçoit pas la gloire qu'il reçoit, peut-être, ou on n'a pas la vision de sa gloire complète qui nous remplit, qui nous fascine, qui nous occupe l'esprit. Il y a plusieurs façons de voir cette expression être privé de la gloire de Dieu. Pour moi, c'est le fait qu'on est si loin de la nature de Dieu par notre péché, qu'on ne participe pas à sa gloire, qu'on ne voit pas la gloire qu'on verrait si nous étions en parfaite harmonie avec lui. Et verset 24, il nous dit que nous sommes, si nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais nous pouvons être gratuitement déclarés justes par la grâce de Dieu, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est un message que nous sommes tous des pécheurs qui est dans toute la parole de Dieu. L'Ancien Testament, Ésaïe 53:6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Une fantastique prophétie de ce que Jésus a accompli à la croix. Nous sommes déclarés justes par la grâce de Dieu, c'est la faveur non méritée, par le moyen de la libération ou certains autres termes, c'est la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. La rédemption, c'est la délivrance du péché, c'est la délivrance en général, dans le terme grec qui est utilisé, c'est la délivrance au moyen du paiement d'une rançon. On a souvent malheureusement des cas de personnes qui sont capturées par des rebelles ou des terroristes et dont la libération peut être assurée par le paiement d'une rançon. Notre gouvernement ne paye jamais les rançons, officiellement, parce qu'ils se disent, si on savent qu'on paye à tous les coups, mais je crois que, et c'est tant mieux pour la vie des gens en question, menacés de mort, c'est quelque chose qui coûte la libération. C'est, pour revenir à qui se trouve en Jésus-Christ, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Jésus-Christ a été une victime expiatoire, ou un autre terme, c'est une victime propitiatoire. L'idée, c'est de non seulement de payer pour le péché, mais c'est aussi de faire rendre Dieu propice, c'est-à-dire Dieu est satisfait par le paiement de la rançon, mais il a une bonne attitude envers la personne qui se met au bénéfice de ce moyen de pardon. Le propitiatoire, c'était dans l'ancienne alliance, c'était le couvercle qui était au-dessus de l'arche de l'alliance dans le Saint des Saints. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait entre autres les tablettes de la loi qui avaient été brisées, que l'homme avait violé. Et la gloire de Dieu, elle était au-dessus, entre les chérubins. Et il fallait que sur ce propitiatoire, le prêtre, une fois l'an, verse du sang. Le sang permettait de rétablir la liaison entre la gloire de Dieu et l'homme qui avait violé les 10 commandements. C'est une très belle image qui est un peu perdue par la traduction des fois de nos versions modernes de la Bible. Dieu, il est ce lien possible par son sang pour nous réunir avec Dieu et sa gloire. Cette justification, le fait d'être déclaré juste, c'est quelque chose de dur à accepter, parce que non seulement on est pardonné, mais on est déclaré, on est acquitté de toute culpabilité. Et puis il nous dit que c'est comme un cadeau. Dans le verset 24, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. C'est le mot qui veut dire un cadeau. C'est un mot grec qui est utilisé dans un endroit où Jésus dit qu'ils l'ont accusé sans aucune raison. Ils n'avaient pas de raison. Et malgré cela, ils l'ont fait souffrir. Donc c'est gratis. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Il n'y a aucune raison dans celui qui est au bénéfice de cette grâce d'être choisi pour cette grâce. Des fois, on pense que Dieu a su reconnaître en nous un potentiel. J'étais pécheur, mais Dieu a vu en moi un certain potentiel et donc il a décidé de me donner accès à sa grâce, à cette faveur. Non, c'est tous les hommes, la seule chose, c'est par la foi en Jésus-Christ, le moyen d'expiation qui se trouve en Jésus-Christ. Verset 25, « Pour ceux qui croiraient ». On pourrait penser que pour ceux qui viendraient à l'Église au moins 3 fois par mois, pour être une victime expiatoire, pour ceux qui donnent la dîme, pour ceux qui font du bien à leurs voisins, non, simplement pour ceux qui croiraient. Simplement croire que ce que Paul est en train de décrire, c'est vrai, et demander à y participer. La croix, c'est central. La croix et la résurrection, parce que la résurrection montre que le sacrifice a été accepté, que la croix a marché, entre guillemets. La croix, elle fait du bien à l'homme, mais quelque part, elle sert aussi à Dieu. Parce que Dieu peut ainsi démontrer, c'est un passage un peu difficile à saisir au premier abord, verset 25, la deuxième partie, « Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. » De quoi est-ce qu'il parle ? En fait, le temps de la patience de Dieu, c'était le temps avant la croix. Comment est-ce que les personnes de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament étaient sauvées ? C'était par la foi en un sauveur, par la foi que la croix allait venir. Dans la Genèse 3, il est déjà question de l'homme qui écraserait la tête du serpent. Ils n'avaient peut-être pas une compréhension précise, mais c'était par la foi qu'ils pouvaient être sauvés. Et il semblait, à l'époque, qu'il y avait une apparente tolérance au péché. Comment un homme comme David a pu être sauvé, lui qui avait commis l'adultère, commis le meurtre, commis la dissimulation, qui avait vécu dans l'hypocrisie. La justice de Dieu, sa droititude, encore pour mieux comprendre le terme, elle semblait voilée en quelque sorte. On aurait pu la mettre en question, mais là, il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Alors il y avait des sacrifices qui étaient offerts pour demander pardon à Dieu, mais il fallait les renouveler tous les ans, ou plusieurs fois par jour, ou par mois, ou par année. Les péchés étaient couverts, simplement. Ils n'avaient pas disparu. Ces péchés commis auparavant, qu'il ne punissait pas tout de suite, c'était l'époque de sa patience. Un de nos problèmes, des fois, c'est qu'on confond la patience de Dieu avec son acceptation de certains péchés. Je peux penser que parce que quand j'ai menti à telle personne, j'ai pas eu un coup de foudre sur la tête, peut-être que c'est pas si grave. Et le fait qu'il ne nous zappe pas tout de suite, ça veut pas dire que nous ne méritons pas d'être zappés, mais il est à l'époque de sa patience. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas déclenché son retour encore ? Parce que c'est encore le temps de sa patience. S'il était revenu en 1982, je n'aurais pas été sauvé. J'aurais été toujours dans mes péchés. S'il était revenu il y a 5 ans, peut-être que parmi nous, il y en aurait qui ne seraient pas promis à l'éternité avec lui. Mais, on a vu dans le début de Romains que la colère de Dieu s'élève comme un... Il y a un amoncellement de colère. Et on avait parlé du barrage de Malpassé, près de Fréjus, qui avait craqué lorsque les eaux étaient montées à un certain point. À un moment donné, Dieu va dire « c'est fini ». L'arche de Noé, c'était un moyen de trouver la sécurité. Pendant 120 ans, Noé l'a bâti et les gens se moquaient de lui. Il a commencé à pleuvoir, les gens auraient pu demander à monter. Il a pu sauver les espèces animales et l'espèce humaine avec 7 autres personnes. Mais à un moment donné, l'arche s'est refermée. Et c'est important de réaliser, surtout si vous n'avez jamais accepté le Seigneur comme votre sauveur, qu'à un moment, il faut le faire. Parce que vous n'avez aucune garantie qu'il y aura encore la possibilité de le faire dans demain matin, dans 6 mois, dans 10 ans, peut-être. Mais rien n'est garanti. L'époque de la patience de Dieu, on ne sait pas quand elle va s'achever. Et il la démontre, cette justice, cette droititude dans le temps présent, en étant juste, tout en déclarant juste celui qui est à la foi en Jésus. Il peut déclarer juste les pécheurs tout en se réclamant de sa propre droititude, parce que c'est pas simplement de dire « bon, on efface tout, c'est pas grave ». Non, il a envoyé son Fils unique mourir à ma place. Donc la justice de Dieu a été satisfaite. C'est pas comme un juge qui dirait « bon, ben ça va, on va, c'est une période de grâce présidentielle ». On va laisser sortir. Non, c'est la punition est c'est passé. La punition a été appliquée. Il reste un juste juge. Et en même temps, nous pouvons être au bénéfice de cette justification, de déclarer comme si nous n'avions jamais péché. C'est renversant. C'est cosmique comme stratagème. Il faut être Dieu pour penser à de telles choses. Il y avait un auteur célèbre qui disait « Le plan de Dieu me prouve qu'il n'est pas humain, que ce n'est pas une fabrication de l'homme que cette Bible. Il n'y a rien de comparable dans tout le reste des religions. Toutes les autres religions, c'est « j'essaye de faire aussi bien que je peux » pour espérer mériter la faveur de Dieu. Et c'est pour ça que vous demandez à des gens d'autres religions, est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis? Leur réponse est, ah mais ça, on ne peut pas être sûr. Vous pouvez avoir la certitude, si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, si vous êtes au bénéfice de cet échange incroyable, Dieu est juste en vous pardonnant. Tout est question de foi. Et c'est pour ça qu'il continue en disant « Où donc est la raison de se montrer fière ? Elle a été exclue. » Typiquement, dans les autres religions, ou même sans religion, les gens ont une religion à eux. « Je suis une bonne personne. » S'il y a quelque chose après, je mériterai d'y participer. S'il n'y a rien, ben, ça n'est pas grave. Tous ont de la fierté à obéir à des rituels religieux. On veut être l'homme, encore une fois, son péché à la base, c'est l'orgueil. L'orgueil que Satan avait, qu'il a fait devenir un ange rebelle, un ange de toute beauté. Maintenant, il veut entraîner à sa suite autant de personnes qu'il veut. Et lorsque nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché pour se faire comme Dieu, l'orgueil de l'homme est resté, c'est notre principal problème. Les gens veulent croire qu'ils méritent l'approbation de Dieu par leurs bonnes œuvres, par leur réputation, par leur persévérance, alors qu'en fait, tout ça, c'est nul. C'est nul de chez nul. Ok ? Mais moi, je lis la Bible complètement tous les ans. Waouh ! Ça ne va pas impressionner Dieu. C'est bien pour vous, parce que ça vous permet d'être au contact, mais surtout n'essayez pas ça, de faire ça pour mériter des points, des bons points. J'avais une petite sœur, elle nous faisait rire, parce que quand elle était toute petite, à la maternelle, elle volait des bons points à ses copines pour en avoir davantage. Et souvent, c'est un peu ce qu'on fait en étant religieux, quoi. On va faire croire aux gens qu'on est plus religieux qu'on est plus spirituel que l'on est. Non. Aucune raison d'être fier. Aucune raison de se dire « je suis chrétien, moi, madame ». Tant mieux pour vous, tant mieux pour moi. Mais il n'y a aucune place pour s'enorgueillir d'avoir reçu un cadeau qu'on ne méritait pas. Elle a été exclue. Par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non, par la loi de la foi. Le principe, c'est pas celui de faire des œuvres, des bonnes œuvres, des actes charitables, des actes qui méritent l'approbation des hommes et, on l'espère, celle de Dieu. Non, c'est par la loi de la foi. C'est par le principe de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Notre droititude, notre acceptation par Dieu, elle n'a rien à voir avec vos bonnes œuvres. Ce n'est pas facile à saisir. Et même quelqu'un qu'on célèbre en ce moment pour le 500e anniversaire de la Réforme, Luther avait du mal à saisir ça. Il écrivait que l'épître de Jacques, c'était une épître de paille, parce que dans cette épître, Jacques disait « Ce qui compte, ce ne sont pas vos œuvres, c'est votre foi. » Et la question qu'on se pose, alors on peut dire qu'on croit et on fait n'importe quoi ? C'est génial ça. Non, parce que si vous avez vraiment la foi, Dieu vient vous transformer de l'intérieur. On ne va plus faire les péchés qu'on commettait avant, non pas parce qu'on espère qu'en ne les commettant pas, on va impressionner Dieu, mais Dieu nous a acceptés. Quelqu'un a dit, et c'est une bonne expression, avant de nettoyer le poisson, Dieu l'attrape. C'est tout bête. Mais quand vous allez à la pêche, vous ne commencez pas par nettoyer les poissons dans l'eau avant de décider « je vais attraper celui-là ». Vous attrapez un poisson, il peut être tout sale, il peut... Et après, vous le nettoyez. Dieu, c'est la même chose. Il nous propose de venir à lui, et après, il va nous nettoyer. On n'est pas sauvé parce qu'on est tout beau, tout propre. On est sauvé parce qu'on accepte son offre de nous sauver. Et après, il va nous nettoyer. Le Saint-Esprit va venir en nous. Il y a la justification, maintenant il va y avoir la sanctification qui va nous permettre de devenir de plus en plus comme Jésus lui-même. Il n'y a pas de raison non plus de préférence raciale. Il dit, s'il fallait qu'on respecte la loi elle avait été donnée aux Juifs. Ça voudrait dire qu'il y aurait une façon d'être sauvé pour les Juifs. Eux, ils respectent la loi, ils seront sauvés. Et puis les autres, il faut qu'ils fassent autre chose. Non, parce que pour tous, aussi bien les juifs que les non-juifs, oui, il est aussi, verset 29, il est aussi le Dieu des non-juifs, puisqu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu en trois personnes, qui déclarera les circoncis, c'est-à-dire les juifs, juste sur la base de la foi, et qui déclarera aussi les incirconcis, c'est-à-dire tous les autres, tous les païens, juste au moyen de la foi. Ça, c'est formidable pour un pasteur. Il n'y a qu'une façon. Je n'ai pas à faire un sermon pour vous êtes juifs, bon alors, vous, alors rappelez-vous les 10 commandements, vous les faites. Ah, vous n'êtes pas juif. Alors vous, il va falloir, travailler dur, hein, il va falloir, faire plein de bonnes choses, etc. Non, tous, qui que nous soyons, nous ne pouvons être sauvés qu'au moyen de la foi en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli à la croix. Et il déclara les circoncis juste sur la base de la foi. Et il déclara aussi les incirconcis juste au moyen de la foi. On est tous au même niveau. Alors certains disaient à Paul, et il a cette habilité, cette capacité à, parce que c'est quelqu'un qui aimait s'exprimer, qui aimait convaincre les gens, il anticipait les questions des autres. Il se posait des questions rhétoriques. Est-ce que ça veut dire que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi ? C'est ce que je disais, maintenant on dit qu'on a la foi et on fait n'importe quoi, on ne respecte pas la loi est annulée. Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Nous reconnaissons qu'il a fallu que la loi soit respectée parfaitement par une personne qui vient nous miraculeusement, de façon inimaginable à l'homme, de venir nous donner cette parfaite droititude. C'est quelque chose, que Paul, c'était sa vie de faire comprendre ça aux gens. Ce n'est pas en faisant des bonnes actions que vous allez mériter des bons points. Vous en êtes incapable. La loi, elle est comme un fil à plomb, comme un micromètre qui va vous montrer que vous n'avez pas la perfection que Dieu demande, la tolérance zéro, absolue. La loi, en fait, elle est faite pour vous montrer que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. La loi, elle est faite pour vous pousser vers Jésus-Christ. La loi, quelqu'un a dit, c'était comme un lasso pour nous attraper vers Jésus. Et Jésus nous dit, tu croyais y arriver tout seul ? Non, viens, reçois-moi dans ta vie. Reçois-moi et soit au bénéfice de cet échange incroyable dont nous avons parlé. Paul, il en reparle, c'est pas... C'est pas quelque chose dont il a parlé ici et puis qu'il aurait oublié ailleurs. C'était quelque chose qui marquait son message. Il était tellement convaincu de cette réalité, parce que lui, il était un exemple même de juif qui il n'y avait pas meilleur juif essayant de respecter la loi, personne n'essayait mieux que lui de respecter la loi. Il était pharisien des pharisiens, il était hébreu des hébreux, il était pharisien, il avait été éduqué. Il le dit lui-même en parlant des... des Hébreux, il disait, pourtant moi-même, ça c'est dans Philippiens 3, 4, pourtant moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Il allait même jusqu'à dire qu'il appliquait la loi parfaitement. Et puis il continue, mais ces qualités qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Le mot perte, c'est une gentille métaphore pour exprimer, traduire le mot skubala. Toutes ces choses, il a regardé comme des excréments. À cause de Christ. Toute sa propre justice, tous ses efforts religieux, tout ça, quand il a compris, quand il a été touché par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, que Dieu l'a renversé, lui a parlé pendant 3 ans, il a compris, il les regarde, toutes ses qualités, il dit « c'est nul de chez nul ». Ça sert de rien, ça sert à rien. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tout ce qui peut nous sembler comme des bonnes choses par rapport à la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, c'est rien du tout. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures, Moskoubala, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les choses étonnantes, fantastiques, incroyables qu'elle nous révèle quand nous prenons le temps de la lire et que nous essayons de la comprendre avec l'aide de ton esprit. Seigneur, toutes ces choses que j'essaye d'exprimer, Seigneur, que j'essaye d'expliquer, j'ai besoin de me les expliquer, de me les rappeler dans mon cœur, Seigneur. Notre tendance est toujours de revenir à ma propre justice, à revenir à tout ce que je peux faire qui peut te plaire et à compter là-dessus, Seigneur. Mais la seule chose qui compte, c'est ce qu'a fait Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort pour moi et qui m'offre cette justice divine parfaite si je viens à lui en confessant mes péchés. Seigneur, c'est dur à imaginer, c'est dur pour toutes les religions que d'entendre qu'on ne peut rien mériter par nos efforts religieux. La grâce, c'est quelque chose qui est contraire à notre nature. Nous avons toujours su qu'il fallait faire des efforts pour mériter quelque chose. Et là, Seigneur, par amour pour nous qu'on ne comprend pas, tu nous aimes d'abord et ensuite tu viens nous transformer. Seigneur, aide-nous à comprendre cela davantage aujourd'hui et que ça soit un rappel même dans notre vie de chrétien, Seigneur, de ne pas compter sur nos engagements, sur nos ministères, sur notre travail, sur notre disponibilité. Tout cela, ce sont de bonnes choses, mais elles viennent, elles ne sont justes que si c'est parce que c'est toi qui nous les inspires après que nous sommes venus à toi, Seigneur. Et si parmi nous, il y en a qui n'ont jamais fait cette démarche de venir à Jésus-Christ, de lui apporter les péchés pour recevoir cette parfaite droititude, pendant que nous sommes encore dans le recueillement, je vous invite à prier, une prière en silence, en disant « Oui Seigneur, je reconnais que j'ai péché et que je suis loin de la gloire de Dieu. » Vous pouvez répéter en silence dans votre cœur. Et Seigneur, je sais que ces péchés méritent la mort, l'enfer, mais que tu, par amour pour moi, Tu as envoyé Jésus mourir à ma place. Seigneur, je crois que c'est la vérité. Et Seigneur, je veux me mettre au bénéfice de cette transaction que tu me proposes aujourd'hui. Seigneur, sois mon seul espoir de salut. Merci de pardonner mes péchés passés, mais aussi ceux à venir. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour ces péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je t'ouvre maintenant la porte de mon cœur et je t'invite à venir vivre en moi. C'est en toi et en toi seul que je mets ma confiance pour la vie éternelle. Merci d'entendre ma prière et de me donner la vie éternelle. Amen.